L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dernière émission de Handicap Tribune pour l'année 2025. Bienvenue. Ce soir, l'émission est en différé car je suis au théâtre. Il y avait un spectacle intéressant autour de la chanson. Mais j'ai pu enregistrer le magazine et grâce à Sidi, notre régisseur, vous allez pouvoir l'écouter. D'ailleurs, il faut que je fasse quelques excuses par rapport au mois dernier, à l'émission de novembre, qui a été faite dans des conditions assez compliquées, on va dire, vu qu'il y avait eu un petit souci technique. Malheureusement, on ne pourra pas, je pense, faire un podcast complet de cette émission-là. Pour ce mois-ci, je vous propose une rencontre avec Claude Garandès, que certains connaissent pour avoir touché du doigt les livres gaufrés qu'il avait fait éditer sur certains peintres comme Picasso, Van Gogh, Matisse. Et puis, il est aussi sculpteur, sculpteur d'ombre, dit-on, vous comprendrez pourquoi plus tard, je lui ai rendu visite à Nice. Et puis, plus près, il y avait à l'UNADEV en décembre, à la mi-décembre, un atelier de fabrication d'une machine à imprimer du braille, braille rap. Eh bien, j'ai fait un petit tour aussi sur cet atelier et je vous présenterai ce projet. Il y aura aussi trois nouveaux jeux auxquels vous pourrez jouer chez vous, puisque l'antenne ne sera pas ouverte aux auditeurs. Quelques pauses musicales qui vont parler de Noël, mais pas forcément comme on s'y attend. Et un moment musical en fin d'émission consacré aux enfants, mais pas forcément en rapport direct avec Noël et les cadeaux. Je vous souhaite une bonne écoute, et nous partons tout de suite à Nice à la rencontre de M. Garandès, rencontre qui sera diffusée en trois parties, avec pour commencer l'historique de l'association Art Image et les débuts de son fondateur.
Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à Nice pour venir nous rencontrer. Nous sommes ici dans les locaux de l'association Art Image, où j'ai le plaisir de travailler en tant qu'artiste. C'est donc également mon atelier. Ces locaux sont relativement simples. Nous avons deux belles pièces dans lesquelles nous pouvons mener nos activités. Alors, les activités de l'association Art Image, c'est quoi? C'est des cours d'art plastique, dessin, aquarelle et également des cours de céramique.
C'est une association qui existe depuis combien de temps?
Alors nous sommes créés en association en 1992. Tout d'abord, nous avons mené une activité d'édition de livres en relief et nous étions situés ailleurs, dans une petite maison niçoise très mignonne, mais où nous avions à peu près 200 marches. Ce qui nous empêchait d'avoir du public, d'une part à cause de l'accessibilité des locaux, et d'autre part, les locaux étaient tout petits. Après, nous avons développé nos activités, et notamment nos activités de céramique. Et nous avons fait l'acquisition d'un four qui pèse 2 tonnes, qui est un four de 3 quarts de mètre cube. Et ce four n'était absolument pas en capacité d'être transporté dans les locaux que nous avions. Donc on a cherché un local où on pouvait installer notre association, mon atelier et également le grand four. Et un ami typographe qui avait une vieille maison en ruine dans le quartier Nice-Nord, pas loin du boulevard Gorbella, m'a dit, écoute, en attendant que tu trouves un atelier, si tu veux déposer le four dans cette vieille maison, aucun problème. Au bout de quelques mois, n'ayant pas trouvé de locaux à louer, nous lui avons proposé de retaper absolument toute la maison uniquement avec des amis. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc aujourd'hui, nous nous trouvons à 100 mètres du tram, dans une maison que nous avons toute rénovée du sol au plafond. Et donc le four a trouvé sa place, et nous aussi. Et depuis, on est très content d'être en plein cœur de ville.
Alors vous, vous êtes artiste, mais vous avez une particularité, si on peut dire, c'est que vous êtes non-voyant. Et vous êtes non-voyant d'enfance, mais dans votre enfance, on vous a justement fait toucher à l'art. C'est de là que vient votre goût pour la sculpture ?
Alors, le parcours est un peu atypique et un peu tortueux. Mais disons que quand j'étais enfant, il n'y avait que deux choses qui m'intéressaient réellement. C'était le sport et le dessin. Donc, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai passé mon temps à peindre, dessiner et à faire énormément de sport.
À aller un peu à l'école aussi quand même.
Oui, mais j'y étais très mal à l'aise, sauf en maternelle, où là j'avais une maîtresse dont j'étais amoureux, qui était absolument merveilleuse, qui m'a fait faire des arts plastiques, et qui peut-être est aussi la cause de mon éveil artistique. Mais après, le reste de ma scolarité en école primaire n'a été qu'une longue période de très désagréable pour moi. Voilà. Alors après, à l'âge de 12 ans, j'ai perdu la vue suite à un décollement de rétine, très grosse myopie d'origine, de départ. Et je n'étais pas un enfant très sage. Donc à 7 ans, je me suis battu dans une cour de récréation et suite à un coup de poing, j'ai perdu l'œil droit. Et après, j'ai fait énormément de plongeon. J'aimais beaucoup aller à la piscine et je plongeais de 10 mètres à l'âge de 11 ans. Et pour les rétines fragiles, les chocs, c'est jamais très bon. Donc à 12 ans, la rétine de l'œil gauche a sauté et je suis devenu aveugle à partir de ce moment-là.
Et du coup, vous avez intégré un institut spécialisé ?
Non, non, parce que mon père qui a eu à être scolarisé dans des établissements très stricts, en pension, ne voulait absolument pas que j'aille rejoindre ce type de fonctionnement. Et donc, j'ai intégré une école ordinaire, mais en classe de transition. C'est l'équivalent aujourd'hui des SECPA. J'ai passé une année dans cette classe où on ne me disait plus que j'étais bête ou fainéant. Et on disait, mais c'est normal, s'il n'y arrive pas, il est aveugle. Voilà, et ça ne me plaisait pas trop.
C'est pas beaucoup mieux.
Donc j'ai commencé à travailler et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Et donc après j'ai intégré une cinquième traditionnelle, une quatrième classique avec le latin. Et j'ai continué mes études de cette manière. Et plus j'ai eu à travailler, plus j'y ai pris énormément de plaisir. Ce qui m'a amené au bac. Mais j'avais tellement peur de rater le bac que j'avais déjà commencé des études de droit pour avoir un diplôme équivalent au bac. Voilà, donc j'ai passé les deux en même temps, hein, le bac et la capacité en droit. Puis après, j'ai rejoint le circuit ordinaire de la fac de droit que j'ai mené pendant plusieurs années. Mais parallèlement à cela, il m'avait été proposé d'être professeur de braille, dans une école élémentaire et dans un collège, ce que j'avais accepté. Et donc j'ai mené, parallèlement à ma vie professionnelle, j'ai continué mes études de droit. Après quoi, il a fallu faire un choix. Soit je m'orientais vers une carrière juridique, style la magistrature ou la carrière d'avocat, et j'ai préféré rester auprès des élèves auxquels j'apprenais le braille et les techniques palliatives. Et je me suis dit que pour mieux les comprendre, finalement, la psychologie, ça serait pas mal. Donc j'ai fait un parcours en études de psycho jusqu'au doctorat d'État. Et par contre, à l'époque, le métier de professeur de braille était reconnu pour les instituteurs en milieu élémentaire, classe élémentaire, mais n'existait pas pour le collège ou le lycée. Donc je n'avais pas la possibilité d'avoir un statut réel si je restais prof au niveau du secondaire. Donc j'ai passé un CAPES d'économie, puisque soi-disant c'était ce qui était le plus proche des études en droit que j'avais menées, ce qui n'a pas un grand rapport, mais bon, j'ai passé un CAPES, j'ai eu le CAPES, puis par la suite j'ai augmenté le CAPES en passant une agrégation en sciences économiques et sociales. Donc j'ai fait une carrière en tant que prof d'économie économique et sociale, mais j'ai surtout travaillé avec des élèves mal et non-voyants pour finir conseiller du recteur des Alpes-Maritimes pour les problèmes d'intégration au niveau des élèves porteurs de handicap.
Mais vous-même, pendant tout ce parcours scolaire et universitaire, vous aviez de l'assistance, parce que ça ne doit pas être évident de se débrouiller dans une classe ordinaire quand on est aveugle.
Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours accompagné dans mes désirs. Donc c'est surtout mon père qui m'a énormément aidé, puisqu'à l'époque, les livres en braille concernant les études n'existaient pas vraiment, il n'y avait pas de centre de transcription. Et je reprenais en fait tous les cours le soir pour pouvoir arriver à suivre le niveau en classe ordinaire. Ce qui d'ailleurs m'a marqué, puisque quelques 10 ans plus tard, je créais un des premiers centres de transcription, un petit peu à l'image du CTEB, à l'époque avec Monique Trusset, pour permettre la production de manuels scolaires.
Ça, c'était à Nice. Donc, c'était dans quelle décennie, pour qu'on situe un peu votre âge?
Oui, ça c'est... L'âge, il est simple, hein, j'ai 70 ans. Et donc, c'était dans les années 76. Disons que j'ai commencé ma carrière de prof à l'âge de 20 ans, en 1976.
Et vous avez donc créé ce centre de transcription qui existe toujours?
Non, qui a fermé, mais qui a fonctionné pendant une trentaine d'années. On travaillait essentiellement de deux manières, la possibilité de transcrire des manuels scolaires et également d'être au service des enseignants de notre académie pour les documents plus ponctuels, les besoins des cours, des exercices, etc.
Quelques mesures de Debussy pour illustrer cette interview de Claude Garandez que vous retrouverez plus tard. Cet extrait de The Snow is Dancing, pièce qui fait partie du recueil The Children's Corner. Vous êtes dans Handicap Tribune et je vous propose de jouer à présent, mais pas à l'antenne puisque l'émission est en différé, mais vous pouvez toujours jouer chez vous avec les indices que je vais vous donner. Il s'agit d'un jeu que vous connaissez bien maintenant et que j'appelle la censure. Il faut retrouver des paroles qui sont remplacées par un bip, comme la censure d'autrefois.
Comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbourg, il y a le Renault et le Renard. Le Renault ne boit que de l'eau.
Vous avez sûrement reconnu la chanson « Docteur Renault, Mister Renard ». Mais quelles sont les paroles qui manquent ? Renard est un sacré soifard. Renard est un pilier de bar. Ou bien le Renard carbure au Ricard. Réfléchissez et je vous donne la réponse après la pause.
Silver bells,
silver bells,
silver bells,
silver bells.
It's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling.
Hear them ring,
hear them ring.
Soon it will be Christmas
up lights blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all the bustle, you
Silver Bell, cloche d'argent, qui raconte comment la Noël embellit toute la ville. C'est chanté par Patti Loveless et c'est extrait d'un album qui s'appelle Bluegrass and White Snow. Alors, vous avez trouvé la réponse au jeu ? C'était la réponse C, comme Renaud lui-même va nous le confirmer.
Le Renaud ne boit que de l'eau, le renard carbure au Ricard.
Vous êtes sur Radio Galère dans le magazine Handicap Tribune et nous poursuivons notre rencontre avec Claude Garandès qui cette fois nous parle de son travail d'éditeur de livres gaufrés et de ce que fait aujourd'hui l'association Arimage. Et à partir de quel moment vous vous êtes plutôt consacré justement au livre gaufré et à la sculpture ?
Quand j'ai eu à travailler avec des enfants aveugles, je me suis rendu compte que tout ce qui était dessin n'était pas enseigné, n'était pas pratiqué et pourtant était d'une grande utilité dans l'épanouissement scolaire d'un enfant aveugle. Ne serait-ce que pour les schémas dans géométrie, pour énormément de choses. Et à la même période, vers les années 91-92, à Antibes, au musée Picasso, une conservatrice, Danielle Giraudy, qui par la suite a été directrice de tous les musées de Marseille, avait l'intention de rendre accessible une partie de l'œuvre permanente de Picasso. Et donc on a travaillé ensemble, elle et moi et un graveur, pour essayer de rendre en relief ces merveilleux dessins. Et pour arriver à faire un travail de qualité, nous rencontrions assez fréquemment, y compris avec mes élèves de l'époque, pour pouvoir tester et vérifier l'efficience des dessins que nous créions.
Vous travaillez avec quoi pour créer ces dessins ?
Alors, à l'époque, on a surtout travaillé avec la gravure, c'est-à-dire que Claude Rodrigue, qui était le graveur avec lequel je travaillais à l'époque, gravait en creux sur du bois, puis on mettait une feuille de papier un peu solide, hein, 200-300 grammes, sur cette matrice que l'on passait dans des presses à rouleaux avec un feutre, et le feutre poussait le papier pour que le papier finisse par épouser le creux de la matrice. Le livre de Picasso est né ainsi, et à la même période, ayant voulu sortir un livre sur Cocteau, plutôt que de chercher à faire graver ça par des instituts, etc., vu le prix, j'ai décidé de créer notre propre atelier de gravure, l'atelier aux 100 regards. 100, on l'écrit comme on veut, en chiffres ou en lettres.
De là est née l'association Arimage.
Alors, l'association Arimage, oui, est née parallèlement à cette démarche, et on était donc surtout orienté création de livres et de livres d'art en particulier. Donc ça a donné lieu bien sûr au Picasso, au livre sur Cocteau. On a fait ensuite un livre sur Matisse, Par la suite, nous avons continué et développé cette technique. Un des derniers livres créés, c'était Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, où la famille de l'aviateur nous a autorisé et demandé de sortir en relief les dessins qui ornent le livre Le Petit Prince, en première mondiale, puisque ça n'avait jamais été fait.
Les dessins créés par Saint-Exupéry lui-même.
Les dessins, les aquarelles de Saint-Exupéry que nous avons demandé à un graveur, René David, d'interpréter. Bien sûr, ce ne sont que des interprétations, mais c'est très proche du dessin original. Pour Cocteau, pour Matisse, c'est la même chose. Nous avons toujours cherché à rester le plus près possible de l'auteur. Et à chaque fois, nous avons travaillé avec les héritiers directs de ces grandes personnes.
Vous parlez d'interprétation des dessins, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de reproduire le dessin original.
Alors, c'est vraiment important de voir la qualité du graveur, parce qu'il s'agit de permettre à des non-voyants de pouvoir appréhender l'œuvre, mais sans la dénaturer, pour que l'œuvre reste le plus proche possible de la volonté de l'artiste. C'est pour ça qu'on a toujours souhaité que les proches des artistes puissent aussi nous guider, nous conseiller et valider le travail de nos graveurs. Je dis nos graveurs parce que dans le temps, se sont succédés, donc il y avait Claude Rodrigue au départ, il y a eu Fabrice Barbara, René David et Jean Cortès. Chaque fois, nous avons cherché la main la plus sûre et la plus fidèle par rapport à l'œuvre à réaliser. Le grand avantage de notre technique, c'est que le résultat, en toute modestie, le résultat reste parfaitement esthétique. Donc, des voyants aimant l'art ont voulu aussi bénéficier et acquérir ce genre de travaux. Pour nous, ça a été très important parce que le fait que des collectionneurs d'art aient eu envie d'acquérir nos livres nous a permis d'avoir des financements. On est autofinancé pour pouvoir réaliser le travail utile pour les mal et non-voyants. Et c'est pour ça qu'en règle générale, on a toujours essayé de sortir un livre à un prix raisonnable, certes, mais accessible par les voyants, et consentir et essayer de faire en sorte que soit les associations ou les privés puissent obtenir les livres à des prix un peu plus raisonnables.
Vous avez des gaufrages qui sont en couleur ou c'est du noir et blanc ?
Alors, j'ai fait le choix du monochrome. Ça a été un véritable débat, la question est excellente parce que nous aurions eu la possibilité de doubler nos reliefs de dessins en quadrichromie. Mais la quadrille aurait fait que gêner le jeu des ombres par rapport aux voyants et n'aurait rien apporté aux non-voyants. Donc suite à un conseil d'un homme que j'ai énormément aimé et qui était un grand artiste, Sacha Sosno, après de longues discussions, il m'a dit surtout ne bouge pas, reste sur le monochrome. Alors le monochrome, oui, on a plutôt tendance à travailler sur du blanc, mais on a travaillé aussi sur d'autres couleurs de papier. Par contre, toujours le papier a été un papier de haute qualité. On a toujours travaillé avec du 200 à 300, 400 grammes pour que le gaufrage puisse dans le temps rester lisible et avec des traits saillants. On a même des fois dû travailler sur papier mouillé. Toujours du papier à base de chiffon, papier coton, parce que les fibres qui sont plus longues que quand on travaille sur du papier bois permettent, une fois qu'elles ont été imprégnées du gaufrage, les fibres restent et gardent la trace.
Voilà, nous nous trouvons devant la presse à taille douce. Une presse à taille douce, le principe est assez simple. C'est deux gros rouleaux qui enserre un plateau qu'on appelle un marbre, plateau sur lequel on dispose la gravure que l'on veut dupliquer. Sur cette gravure, on met une feuille de papier, puis on le recouvre d'un lange, c'est-à-dire d'un feutre assez épais. L'ensemble va passer entre les deux rouleaux quand on va déclencher le moteur pour que la presse fasse son office.
Au début de cet entretien, on parlait de l'association Art Images et des activités, des ateliers qu'elle propose. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails ?
Oui, tout à fait. Alors, nous avons des activités au sein de notre local. D'une part, des travaux d'art plastique, dessins académiques, dessins aquarelles, qui sont réalisés par une professionnelle, Catherine Doroshenko, qui nous aide et qui apporte son savoir à les professeurs diplômés de l'école Estienne. Ensuite, elle assure aussi des ateliers de céramique. Les cours sont tout à fait réalisés en mixité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi bien des personnes bien portantes, bien voyantes, et d'autres déficientes visuelles, voire d'autres handicaps. Parce que si l'association au départ avait pour but d'être utile aux personnes mal et non-voyantes, nous nous sommes assez vite rendu compte que des lieux d'expression artistique étaient assez rares, y compris pour d'autres types de handicaps. Les enfants, c'est plutôt moi qui assure les cours essentiellement de céramique aussi. Nous recevons des IME. Ensuite, nous menons aussi des ateliers d'audiodescription, mais spécialisés dans les œuvres d'art. Et donc, soit on forme des médiateurs culturels à l'audiodescription, soit nous réalisons nous-mêmes les audiodescriptions qui vont servir dans des expositions permanentes ou temporaires. Nous avons des partenariats avec plusieurs musées sur la région des Alpes-Maritimes. Et ensuite, nous réalisons des gaufrages, des maquettes qui peuvent venir en appui à des visites dans des musées.
Du coup, vous avez une imprimante 3D aussi pour
Oui,
faire ce
alors
type
nous
de
avons deux imprimantes 3D pour faire des petites maquettes en relief. Nous avons la possibilité aussi de réaliser des bas-reliefs grâce à la technique de gravure et nous pouvons les réaliser soit en résine, soit en bronze, voire même en verre. On a fait aussi des représentations en verre.
Et avec l'association Art Images, vous faites de la sensibilisation aussi ?
Oui, on fait pas mal de sensibilisation dans les écoles en particulier, ou dans les médiathèques. Ces ateliers sont essentiellement de deux types. On a une version sensibilisation au braille, auquel je suis très attaché, et qui passionne en général les jeunes, mais pas que les jeunes d'ailleurs, où on leur apprend à lire et à écrire, lire bien sûr avec les yeux, pas avec les doigts, à lire et à écrire en braille. Donc ça, c'est le premier type d'atelier. Et ensuite, on a un autre atelier qui a un très très gros succès auprès des élèves en particulier, des enfants. C'est un atelier presse, c'est-à-dire qu'on se déplace avec notre presse et les élèves réalisent avec des fils électriques des sujets, etc. Et on les met sur la presse et on en tire des gaufrages. Donc c'est très ludique, très efficace et ils aiment beaucoup. Donc on a aussi ce type d'atelier. Après, dans ce que fait aussi de temps en temps l'association, il m'arrive de devoir présenter le braille ou des problèmes autres, comme des problèmes de création, lors de conférences, soit des festivals du livre ou d'autres types de manifestations artistiques. Là, récemment, j'étais au Maroc, justement, pour parler de l'illettrisme et de l'analphabétisation en ce qui concerne les personnes déficientes visuelles.
Claude Garandès, de l'association Arimage que nous entendrons encore une fois tout à l'heure. Je précise que la fontaine que l'on entend au milieu de l'interview, c'est celle de l'association Arimage, celle de l'atelier à Nice. Vous êtes toujours sur Radio Galère dans l'émission Handicap Tribune et je vous propose à nouveau de jouer avec un jeu qui aussi est connu, la voix mystère. Reconnaîtrez-vous cette voix ?
Mon père me disait, mon enfant, mon Angelina, nous t'aimons, tu sais, nous t'aimons tant, et nous tenons à toi.
Je pense que ce n'est pas très compliqué de reconnaître cette voix extraite d'une chanson par l'intelligence artificielle, mais je vous laisse le temps de la pause avant de vous donner la réponse. Une pause qui nous parle de Noël et même du Père Noël, mais pas comme on s'y attendrait.
Cette année encore, Père Noël, tu ne liras pas ma lettre. Tu ne la liras pas parce que tu te méfies de moi, depuis toujours. Déjà, quand j'étais tout petit, les lettres que je t'adressais par l'intermédiaire de mes parents me revenaient avec la mention « Erreur d'attribution ne concerne pas le Père Noël ». C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était la guerre d'Espagne. Et que les lettres d'un petit garçon de 6 ans, ne te demandant pas des jouets, mais un peu plus de justice, devaient te mettre mal à l'aise. Toi, Père Noël, tu règnes sur le monde des enfants, pas sur celui des adultes. Et pourtant, ces adultes, tu les as connus, enfants. Qu'a-t-on bien pu leur apprendre à tes enfants que tu n'aies su empêcher qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Et ce qu'ils sont devenus, faut-il que cela te gêne pour que tu les renies aujourd'hui, comme une espèce de complicité gênante. Comme cela, au long des années, je continuais d'avoir avec toi une correspondance à sens unique. Tu ne répondais jamais. C'est mon instituteur qui, pendant des années, me rapporta mes lettres sans réponse. En me les donnant, il avait dans l'œil un petit frémissement de menace contenue. « Vous ne respectez pas la règle du jeu, mon garçon, me disait-il. » Je ne connaissais pas les règles. Je les subissais. Quant au jeu, je le trouvais sinistre. Je n'étais pas puni pour cela, non. C'était Noël, comprenez-vous. Une merveilleuse occasion d'être bon, d'être tolérant. Une journée dans l'année. Je gâchais ton plaisir, Père Noël. Il faut dire que c'était pendant la guerre de 1939 à 1945. Depuis, je suis devenu grand. Alors je n'ai plus d'excuses à toujours demander pourquoi. Personne ne me rapporte mes lettres maintenant. Je suppose, Père Noël, que tu les ranges dans un coin oublié de ta hotte, avec les irrécupérables. C'est vrai, Père Noël, je te refuse. Je te refuse parce que je refuse que l'on marque d'une pierre blanche la seule journée de l'année où la règle est de s'aimer les uns les autres. Père Noël, tu as rendu la tendresse et l'amour exceptionnels. Et cela, je ne puis l'accepter. Viens parmi nous tous les jours de l'année. Je serai des tiens. Et si cela t'est difficile, sache qu'il y a des millions d'humains qui se battent pour le droit au bonheur quotidien. Cette année encore, Père Noël, tu ne liras pas ma lettre.
Lenny Escudero, Lettre au Père Noël. Un texte qui date de 1978. On le retrouvera tout à l'heure, Lenny Escudero, dans le moment musical, mais avec quelque chose de beaucoup plus léger et qui date, lui, des années 60. Nous sommes sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Handicap Tribune et vous attendez peut-être la réponse concernant la voix mystère que l'on a passée avant la pause. Eh bien, il s'agit de France Gall. C'est extrait d'une chanson qui s'appelle « La prisonnière », qui a été composée en 1974 par Michel Berger, mais qu'on a retrouvée 50 ans après, en 2024. C'est la maison de disques Warner qui l'a retrouvée par hasard dans ses archives, nous dit-on, et qui l'a fait sortir. Nous revenons à la dernière partie de notre interview avec Claude Garandès. Cette fois, il nous parle de son travail de sculpteur. Vous comprendrez pourquoi on dit qu'il est sculpteur d'ombre. Et il nous parle aussi de ses projets et de ceux de son association. Comment ça vous est venu, cette idée de toucher à la sculpture? Et vous avez d'abord fait de la céramique ou toujours des sculptures de
métal? Alors, j'ai surtout commencé, quand j'étais enfant, à faire beaucoup de peinture. J'étais voyant et je faisais énormément de peinture. Quand j'ai perdu la vue, j'ai eu beaucoup de problèmes pour re-envisager une quelconque activité d'art plastique. Donc là, j'ai fait énormément de musique, ça oui. Conservatoire, orgue, etc. Mais j'étais vraiment loin de la peinture, du dessin ou même de la céramique. Et ce qui m'a ramené vers ma passion première, c'est mes élèves. Grâce à mes élèves, je suis revenu vers ce que j'aimais quand j'étais enfant.
Parce qu'eux-mêmes pratiquaient de la céramique ?
Non, parce qu'eux-mêmes avaient besoin de pouvoir avoir des représentations en relief. Je travaillais avec des enfants aveugles et bien sûr on avait le braille, mais au niveau dessin, au niveau art plastique, rien à l'époque n'était fait. Et donc j'ai eu à me poser la question de savoir comment réaliser du relief pour que mes élèves puissent en profiter. Et c'est ce qui m'a permis de trouver des techniques, d'utiliser des techniques qui existaient. J'ai rien vraiment inventé, hein. Notamment le gaufrage. Je me suis spécialisé dans le gaufrage pour mes élèves. Et petit à petit, je me suis rendu compte que pour moi-même, ça avait un impact énorme et que ça me repermettait de retravailler ce que j'adorais quand j'étais enfant, c'est-à-dire le dessin. Ce qui donc date de quand j'avais 20 ans et depuis, je ne me suis jamais vraiment arrêté. J'ai travaillé pas mal de techniques différentes et aujourd'hui j'ai particulièrement mis en avant, alors ça s'appelle des coptographies parce que c'est l'art de créer des formes que je crée très souvent en fil de cuivre ou en fil galvanisé, voire même en fer à béton, qui me permettent donc de créer des pièces. Ça peut être par exemple une statue représentant un personnage ou un couple ou un animal, etc. Et en même temps, ce qui m'intéresse énormément dans ce travail, c'est l'ombre que j'arrive à imaginer mentalement, l'ombre que va laisser la pièce suite à un éclairage par des projecteurs. On éclaire les pièces et on peut récupérer l'ombre que la pièce va laisser sur un mur ou sur un tissu.
Mais c'est étrange quand même pour un non-voyant de parler des ombres.
Oui, je comprends que ça puisse un peu surprendre. Mais quand je crée mes pièces, c'est vrai que je pense à la pièce que je suis en train de créer. Et en même temps, j'imagine mentalement l'ombre que va laisser la pièce. Des fois d'ailleurs, il peut n'y avoir pas beaucoup de rapport entre la pièce et l'ombre. Je vous donne un exemple. J'ai eu à travailler pour le bicentenaire de Garibaldi pour une exposition à Milan. Et donc j'ai fait 9 personnages de cirque qui étaient sur une file, une corde en métal. Il y avait ces 9 personnages. Mais quand on mettait le projecteur sur le mur, on récupérait le mot Garibaldi. Chaque personnage dessinait en fait la lettre permettant de lire Garibaldi.
Ah oui, donc c'est quand même du travail très très minutieux. Comment on arrive à faire ça sans la vue ?
Ben en travaillant. En travaillant, j'ai pas trop d'explications sur comment je crée les choses. Je pense que la matière me guide beaucoup. Des fois, je pars avec une idée et puis le fil que je suis en train de tresser, tordre, manipuler, me conduit vers autre chose. Mais cette sensation, je l'ai aussi quand je travaille la céramique. Des fois, c'est la terre elle-même qui guide notre création. Alors, sans tomber dans le mysticisme, à croire que la forme est déjà présente au sein de la terre et qu'elle ne demande qu'à être révélée, et qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus que, on est des passeurs d'images, et on n'a pas l'intégralité de la responsabilité de l'œuvre créée.
Oui, mais la terre, c'est des blocs. Alors, on peut supposer qu'une forme est dans un bloc, mais les fils, vous les travaillez comment? Au départ, ça présente des grosses bobines, c'est quoi?
Souvent, j'utilise des fils électriques que je dénude, et donc c'est des bobines de 100 mètres de fil, et voilà.
C'est de la récupération?
Malheureusement, c'est dur de récupérer des morceaux suffisamment intéressants. Donc oui, bien sûr, ça arrive que je récupère quand des amis m'en donnent, mais souvent on perd plus de temps et c'est encore plus de travail que d'aller chez l'électricien acheter un rouleau, quoi.
Et avec des fils de cuivre, vous arrivez à faire justement différents type de toucher, en fait, pour que ces sculptures aient un intérêt tactile?
Oui, d'une part, il faut que la pièce ait un intérêt tactile, mais ce qu'il faut aussi dans mon travail, c'est que le trait que la pièce va laisser grâce à l'ombre soit différent. Donc c'est pour ça qu'au lieu des fois d'utiliser un fil en une section unique, par exemple, pour être plus clair, si je prends un fil électrique de 1,5 par exemple, le trait d'ombre va être celui d'un trait de 1,5. Mais si je veux faire un trait plus large, je vais doubler le fil, ou le tripler, ou le quadrupler même. Et quelque part, c'est un petit peu comme en calligraphie, quand avec la plume vous appuyez, le trait est plus gros, et quand vous lâchez un petit peu la pression, le trait devient plus fin. Donc mon travail, il est aussi de réfléchir à l'épaisseur, la largeur du trait que je veux laisser aussi bien sur la pièce que sur l'ombre que va donner l'œuvre.
L'association ou vous-même avez des projets en cours là?
Oui, alors l'association a plusieurs projets en cours, notamment avec un IME, nous sommes en train de réaliser la signalétique des différentes salles de leur établissement. Donc on crée des petites plaques en céramique avec des icônes qui permettent de plus facilement identifier la salle pour les enfants qui ne peuvent pas lire mais qui reconnaissent mieux les dessins. Donc ça c'est, et puis en même temps c'est très ornemental, ça c'est très chouette. Et dans cet établissement, ils ont un très beau jardin que nous sommes en train d'essayer de décorer avec des totems, des mobiles à suspendre dans les arbres, et puis aussi un grand mur sur lequel nous allons faire une fresque, à la fois en peinture et également en céramique. Ça, c'est pour les projets avec les enfants.
Et ce sont les enfants qui réalisent les sculptures?
Ah oui, 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 oui. Tout le projet est bâti avec les enfants, les dessins partent des enfants, la réalisation en céramique, c'est les enfants qui le font. Voilà.
Et vous, vous êtes là en...
Nous, on est là
juste
en tant
pour
que
superviser.
Superviser, et puis c'est ça, exactement. Pour leur, aussi, au départ, il a fallu leur montrer un petit peu qu'est-ce que l'argile, comment ça se travaille, travailler à la boule, travailler à la plaque, travailler au colombin. Donc ils apprennent en même temps, et c'est le but, si vous voulez. La décoration, c'est le projet, mais pour nous, éducateurs ou plasticiens, c'est de leur permettre de s'approprier une technique qui leur permet d'évacuer ou du moins de véhiculer leurs émotions et de mieux se sentir aussi, parce que ça a un effet très apaisant. Je n'aime pas trop le terme de thérapie,
d'art-thérapie.
Là, ici, c'est un véritable atelier d'artistes. Ils viennent et ils travaillent comme travaille un artiste, avec leur sensibilité, leur émotion et leur joie de vivre. Alors ça, c'est pour l'association. Après, à titre individuel, oui, cette année, j'ai quelques projets. Déjà, je suis invité au mois d'avril pour un gros salon du livre qui se déroulera à Rabat, parce que Rabat sera l'année prochaine capitale mondiale du livre. Donc, je vais y mener des ateliers de lecture et d'écriture en braille. Et en même temps, j'ai peut-être eu une proposition, c'est pas encore tout à fait sûr, mais peut-être une exposition à Rabat de mes œuvres d'art plastique.
On va terminer en donnant les contacts de l'association.
Oui, alors les contacts de l'association, nous avons le site de l'association qui est www.arimage.net. Ça, c'est le site de l'association, qui a aussi un Facebook qui peut se retrouver, et on est aussi sur Instagram. Après, il y a mon site personnel, garandes.com, garandes, garandes.com, également sur Facebook. Voilà. Après, il y a même un numéro de téléphone qui est le 06 13 80 86 96. Et nous sommes situés 6 petites avenues du patrimoine 06 100 Nice.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était donc Claude Garandes, sculpteur et fondateur de l'association Arimage. À présent, une pause musicale de circonstance, puisque peut-être pas toujours pour les fêtes de Noël, mais en tout cas pour le nouvel an, on fait des feux d'artifice, nous dit Calogero.
J'étais hissé sur des épaules, sous ces galaxies gigantesques. Je rêvais en tendant les paumes de pouvoir les effleurer presque. Ça explosait en fleurs superbes, en arabesques sidérales, pour faire des bouquets d'univers. Moi je voulais cueillir ces étoiles. On allait au feu d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui naissent, qui brillent et puis qui glissent, en retombant vers l'océan. Et ça fait des étoiles de mer, ça met dans les yeux des enfants. Et on s'en souvient quand on est grand. Dans le ciel vibrant de musique, je voyais naître des planètes, jaillir des lumières fantastiques et tomber des pluies de comètes. Imaginez, amiral, regardant voler mes flottilles. J'ai fait des rêves admirables sous ces fusées de pacotille. On allait au feu d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui naissent, qui brillent. Tombant vers l'océan, et ça fait des étoiles de... quelqu'un refaisait mes lacets. Je voyais des adolescents au loin là-bas qui s'enlaçaient. Ça laissait dans mes yeux longtemps des traînées de rose et de vert. Je voyais dans mon lit d'enfant des univers sur mes paupières. Nous sommes comme des feux d'artifice, vu qu'on est là pour pas longtemps. Faisons en sortant qu'on existe, de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière, comme un météore en passant. Car même si tout est éphémère, on s'en souvient pendant longtemps.
Nous sommes toujours dans Handicap Tribune sur Radio Galère 88.4 et nous revenons à Marseille pour parler du projet Braille Rap que j'ai découvert le 10 décembre dernier à Marseille à l'occasion de l'atelier de fabrication de la machine, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, qui avait organisé à l'UNADEV l'animateur multimédia ATEF.
Alors moi c'est Stéphane, je suis informaticien et je suis une des personnes à l'origine du projet Braille Rap. Le projet Braille Rap, qu'est-ce que c'est? C'est une embosseuse braille open source qui est née dans un Fab Lab de Rennes qui s'appelle My Human Kit, qui est un Fab Lab dédié à la fabrication d'aides techniques pour le handicap. Donc ça peut être l'adaptation de fauteuils, adapter une cuillère, une fourchette, faire des aménagements dans sa maison, construire des petits outils intéressants. Et dans ce Fab Lab, il y avait des essais pour faire du braille en détournant des machines existantes. Donc, par exemple en mettant des clous sur la tête d'une imprimante 3D. Ça permettait d'obtenir du braille, mais c'était du bricolage, c'était long. Et surtout, ça marchait une fois sur deux. Donc on a proposé à l'époque avec un autre bénévole qui s'appelait Philippe Pacotte de faire une machine qui fasse que du braille, mais qu'il fasse bien. C'est comme ça qu'on a fait le premier prototype, et quand on a commencé à montrer le braille que le prototype produisait, tout le monde nous a dit que c'était génial et qu'il fallait surtout pas arrêter. Donc c'est pour ça que le projet existe aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est un modèle qui a 7 ans, il a évolué pas mal au fil du temps, il y a eu plusieurs versions. Surtout pour faciliter le montage, parce qu'on fait des ateliers régulièrement avec la machine, et puis la rendre de plus en plus fiable. Après, c'est une machine qui a pas mal d'intérêt, parce que comme elle est open source, tous les plans sont disponibles. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller en Afrique, d'aller en Asie, pour organiser des ateliers, parce que comme c'est une machine qui est à la fois pas très chère, et en plus, où tous les plans sont disponibles, c'est une machine qui est entièrement réparable.
Alors cette machine, elle ressemble à une caisse à outils, on dirait, enfin, point de vue forme, beaucoup plus large que profond. C'est du plexiglas, tout
oui,
ça, non
oui.
De chaque côté de cette boîte rectangulaire, on a pas mal de vis qui apparemment font tenir l'ensemble. Et puis on a une sorte de... qui doit sans doute actionner un rouleau à l'intérieur de la boîte.
Ça permet de faire avancer ou reculer le papier pour pouvoir le mettre dans la machine.
D'accord, oui, parce qu'il y a une fente effectivement de part et d'autre, vers le milieu de du long côté de la boîte, il y a une fente d'un côté où on doit pouvoir mettre
une feuille
de papier, et puis une fente de l'autre côté par où la feuille de papier va sortir, je suppose.
Voilà.
À l'intérieur de la boîte, en fait, il y a quel type de pièces pour que
Alors la machine, elle est faite, le châssis en fait c'est là c'est du plexiglas qui a été découpé sur une découpe laser. On va trouver des éléments en plastique, c'est des pièces qui sont imprimées sur une imprimante 3D. Et puis il y a quelques éléments qu'on ne peut pas fabriquer comme ça, tout ce qui va être visserie, ainsi de suite, ça on est obligé de l'acheter. Toutes les parties électroniques avec les deux moteurs, on est obligé de les acheter. Et puis il y a un petit peu de quincaillerie pour guider un petit peu des éléments qui sont des pièces qui viennent d'imprimantes 3D. On est aussi obligé de les acheter. Mais c'est des pièces qui sont faciles à trouver. On a essayé d'éviter au maximum tout ce qui pouvait être pièces compliquées à avoir, à tel point que les rouleaux pour entraîner le papier, c'est des joints de robinet en fait.
Ah oui.
Donc ça se trouve dans une plomberie n'importe où, et ça on en trouve partout.
Oui, donc c'est un peu de la récupération aussi.
Alors, celle que je fais, c'est pas de la récupération.
Du détournement de pièces qu'on peut trouver.
Voilà, c'est du détournement de pièces. On peut acheter des pièces neuves et monter une machine. Je connais quelqu'un en Asie qui monte des machines comme ça, entièrement à partir de récupération. Donc là, l'idée, c'est de démonter des machines pour récupérer des moteurs, trouver de la visserie à droite à gauche, et puis arriver à monter des machines.
Vous avez les mêmes types de pièces que ce qu'on utilise dans une imprimante braille classique,
finalement ? C'est pas très très loin, en fait. Si j'ouvre la machine, hop, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Je peux prendre votre main ?
On regarde l'intérieur de la bête.
Donc là, on va trouver ici des rouleaux qui appuient sur le papier.
Ça, là ?
Alors oui, ça, c'est une barre qui va permettre de guider
le papier
braille. Mais la pièce qui est ici, là, voilà. Donc ça appuie sur le papier. Et du coup, il y a des rouleaux. Et là, je vais pouvoir faire avancer et reculer la feuille en tournant les molettes. Mm-hmm. Et puis, je vais avoir ici un chariot qui peut aller à droite et à gauche. Et sur ce chariot, il y a un pointeau braille au bout d'un électro-aimant. Donc on peut le piloter. Et donc on fait avancer la feuille à l'endroit où on veut, on met le chariot où on veut, à droite ou à gauche, et on déclenche l'électro-aimant et on fait un point braille là où on veut sur la feuille. Et puis on répète l'opération pour tous les points qu'on a besoin de faire.
Oui, mais du coup, ça se fait automatiquement quand même.
Oui.
C'est des choses qui sont guidées automatiquement,
voilà,
par le logiciel.
C'est pour ça qu'on la branche sur un PC, c'est pour que tout ça ce soit automatique et que ça se fasse.
Et la connexion au PC, c'est de l'USB ?
Ah bah oui.
Je vois la. Et ça pèse combien de kilos, ce petite chose-là ? Ah ouais, pas trop lourd.
En A3, elle doit faire à peu près 7 kilos, quelque chose comme ça.
Oui, ça reste transportable quand même.
Il y a deux modèles, ça c'est le modèle A3. Il y a un modèle qui est plus petit, qui fait que du A4, qui se trimballe très, très facilement dans une petite valise, y compris une petite valise cabine pour aller en avion. Ce modèle-là, j'ai un sac qui a été fait sur mesure. Mais je l'ai transporté depuis Rennes en train sans problème. En fait.
Et donc là, j'ai sous les doigts une représentation de la Tour Eiffel. Et puis, on nous indique effectivement en légende à droite, premier étage, deuxième étage. Donc ça, c'est fait avec des logiciels de dessin, je suppose.
Voilà.
Alors effectivement, le braille que j'ai vu sur le dessin est quand même assez propre. L'écriture, vous avez un modèle que vous avez fait pour montrer ce que ça fait. Bonjour, je m'appelle Braille Rap pour l'UNADEF PACA, décembre 2025. Effectivement, le code braille est tout à fait impeccable et les points sont tout à fait comme il faut. Donc c'est du papier A4 classique.
60 grammes classique, ça marche aussi avec du A3. La différence après par rapport aux machines du commerce, c'est moins cher, mais ça fait pas à tout. Alors d'une part, ça va beaucoup moins vite. Globalement, il faut 3 minutes et demie pour faire une page de braille complète A4.
Ah oui.
Là où une index va beaucoup plus vite.
C'est évident.
Et puis, il n'y a pas de chargeur de feuilles, donc il faut mettre les feuilles une par une dans la machine. Ça permet de produire du braille facilement dans, je sais pas, une association, un particulier, ce genre de choses, parce que le prix est quand même plus intéressant.
Cette machine artisanale fait-elle du bruit ?
Alors la réponse est oui.
elle est combien?
Si vous achetez toutes les pièces détachées pour en construire une vous-même, pour un modèle A3, vous en avez pour 400 euros à peu près.
Oui, ça a beaucoup d'intérêt pour les gens qui veulent faire du braille sans forcément payer une index braille à entre 4000 euros au minimum et beaucoup voilà. Plus cher même pour d'autres. Et si vous l'achetez neuve à quelqu'un?
Il faut trouver quelqu'un qui va vous la vendre.
Ouais. Effectivement, ouais, parce qu'il est plus fait pour être fabriqué soi-même. Quoi.
Pour l'instant, oui, parce que c'est un peu c'est le pendant de l'open source, c'est-à-dire que tous les plans sont disponibles. Aujourd'hui, c'est pas une machine qui est commercialisée, toute montée. C'est pas forcément l'esprit de la chose. Donc pour l'instant, on l'a fait sous forme d'atelier. J'anime régulièrement des ateliers de montage de la machine. Ça permet de se mettre à plusieurs et puis de construire une, deux, trois, quatre machines. Il y a quelques discussions quand même pour essayer de commercialiser des kits donc qui permettraient d'avoir toutes les pièces en une seule fois. Un jour, peut-être que quelqu'un se lancera dans la commercialisation d'une version toute montée, quitte à la modifier un peu pour le faire. Mais...
Ce type de machine-là, elle est accessible directement par une personne non-voyante ou...
Oui.
Parce que, il faut la monter, donc ça, je suppose quand même que ça demande des yeux. Mais une fois qu'elle est montée, est-ce que la personne qui va utiliser le papier, elle va pouvoir effectivement mettre les feuilles dedans sans difficulté? Est-ce qu'après, elle peut se servir du logiciel d'impression sans difficulté? Est-ce que c'est accessible?
C'est accessible au maximum. Sur les logiciels, on a quand même un petit problème. Il y a deux logiciels qui vont avec la machine. Le premier qui fait que du texte. Celui-là est accessible sans problème, il est compatible avec NVDA.
C'est NetBraille peut-être?
Non, c'est pas NetBraille, c'est Access Braille Wrap.
D'accord, c'est un logiciel vraiment dédié à cette machine-là.
Voilà. J'ai des non-voyants qui l'utilisent régulièrement pour embosser du texte. Ils ne me demandent pas de problème particulier. Ensuite, il y a Desktop Braille Wrap, donc ça c'est le logiciel qui va permettre de mélanger des dessins et des étiquettes en braille. C'est ce qui a permis de faire la tour Eiffel de tout à l'heure avec les étiquettes pour les étages. Là, il y a des manipulations à la souris pour manipuler les parties graphiques et ces parties-là ne sont pas accessibles. Parce qu'on n'a pas trouvé la recette encore pour le faire. L'idée, c'est de rendre ce logiciel-là de plus en plus accessible. Bon, ça va prendre encore un peu de temps, mais ça va venir.
Et quel est l'accueil que vous font les revendeurs de matériel ou les associations qui utilisent des machines du commerce?
Les associations, en fait, trouvent ça intéressant. Il ne faut pas voir ça comme des machines concurrentes aux machines du commerce. C'est-à-dire que ce n'est pas une machine qui va permettre de faire du volume, d'aller vite, d'avoir un document rapidement. Par contre, c'est une machine pas chère qui va permettre d'équiper un particulier qui a besoin d'imprimer une dizaine de pages par semaine, par exemple. Et en même temps, ça ouvre des possibilités que n'ouvrent pas les machines du commerce, avec la possibilité aussi, moi c'est beaucoup comme ça que je l'utilise, pour faire à la fois des ateliers d'initiation à la fabrication numérique, parce que assembler une machine avec des collégiens, avec des lycéens, c'est aussi une façon de leur dire le numérique, ça permet de faire des machines. C'est pas forcément très compliqué à monter. Et en plus, ça peut avoir un sens sur l'accessibilité, l'intégration, et avoir une société peut-être un petit peu plus équitable que de faire des logiciels pour la bourse et gagner beaucoup d'argent le plus vite possible.
On est bien d'accord.
Voilà, on ne touche pas forcément les mêmes personnes et ça permet d'avoir un discours sur le numérique qui est un petit peu différent que le discours ambiant. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec cette machine.
Et on va peut-être finir en demandant un peu votre contact, des fois qu'il y ait des gens que ça intéresse.
Le mieux, c'est d'aller sur le site web du projet, donc c'est www.braillerap.org. Alors braille comme braille, RAP et .org. Voilà.
Merci beaucoup. Instrumental qui s'appelle Percussion de Julos Bocarn
pour illustrer cette interview concernant le projet BrailleRap, machine à imprimer le braille à coût économique et qui se fait soi-même en atelier. Et voici le temps de notre dernier jeu de cette émission. Vous savez qu'il existe un jeu de société qui s'appelle le devine-tête. Il s'agit de deviner soit un objet, soit un personnage. Enfin, il y en a de diverses sortes. Moi, c'est un devine-Noël que je vous propose. Ce sont trois chansons assez connues, même très connues, et je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à trouver la réponse chez vous, puisqu'il n'y a pas d'antenne ouverte aux auditeurs. Pour réfléchir, je vous propose de vous envoler avec Annie Cordy.
Avec des roseaux sauvages ramassés près de l'étang et du papier d'emballage, j'ai construit un cerf-volant. Je lui ai fait un visage, deux yeux, un nez, un faux-col. Puis j'ai couru sur la plage, alors il a pris son vent. Changer en ouragan, les éclairs et les tonnerres bousculaient mon cerf-volant. Je tenais bien la ficelle, je ne voulais pas lâcher, mais comme un polichinelle, bientôt je fus emporté. Accroché au cerf-volant, salué sur mon passage par des petits martiens marrants. J'ai rencontré Blanche-Neige à cheval sur l'arc-en-ciel et j'ai vu sur un manège s'amuser le Père Noël. De partir la fleur aux lèvres dans un pays enchanté, où les clowns, où les poètes, où tous les enfants sont rois, où tous les jours c'est la fête, où tous les jours c'est la joie.
Alors, est-ce que cette balade en cerf-volant vous a fait trouver la réponse au jeu? En tout cas, je vais vous la donner, et en musique.
Just like the one I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go,
Let it snow, let it snow, let it snow. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, he said, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?
Il s'agissait donc de White Christmas, ou Noël blanc, Let it snow, et ensuite Rudolph the Red-Nosed Reindeer, ou le petit renne au nez rouge. Handicap Tribune, c'est terminé pour ce mois-ci, mais je vais vous laisser avec un moment musical consacré aux enfants, qui n'est pas forcément en rapport avec Noël, parce que les enfants, c'est pas pour eux tous les jours Noël, des fois. Il y en a qui sont dans des situations bien compliquées, comme on le verra avec certains de ces textes. Bon, j'ai choisi aussi des choses un peu légères, hein, quand même. Mais voilà, il y a entre autres un texte de Dick Hunegaard, un de Lainé Scudero, il y a Hugo Frey, il y a les frères Jacques, il y a aussi l'enfant cerf-volant de Nolwenn Leroy, et puis je ne sais plus, vous écouterez, vous verrez bien. Et en tout cas, on se dit à l'année prochaine, oui, en janvier 2026. Et jusque-là, bon boudin et bonne fête à tout le monde. Au revoir.
Un enfant, quand il fait des ratures, c'est que déjà il sait faire quelque chose. Un enfant qui vole des confitures, c'est un gosse qui a besoin de glucose. Un enfant qui a brisé une soucoupe, ça vous prouve qu'il sait tenir un marteau. Un enfant qui ne mange pas sa soupe, c'est son droit s'il préfère les gâteaux. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. Un enfant, c'est beau, c'est merveilleux, c'est gentil et c'est si naturel. Quand il a des nouilles dans les cheveux, c'est qu'il a descendu la poubelle. Un enfant qui sait pas l'alphabet, c'est un gosse qui a besoin de vacances. Un enfant qui avale un porte-monnaie, c'est parce qu'il fait une crise de croissance. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. Un enfant qui chope la varicelle, c'est à cause du triangle isocèle. Un enfant qui n'aime pas les radis, en voudra si ça lui est interdit. Un enfant qui met le coude sur la table, ça vaut mieux que dans l'œil de sa maman. Un enfant qui a des notes minables, c'est parce qu'il s'est trompé en copiant. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. La la la.
Enfants dans leurs draps dorment d'un sommeil innocent, innocent enfant. La nuit est un doux refuge de rêves, des fils de soie reposent sur les cils de l'enfant, innocent enfant. Que le blanc linge te protège. Toi aussi, j'aurais bien été ton grand, grand frère. Je t'aurais gardé ton lit. Je t'aurais monté dans de longues histoires. Sapristi, tu serais endormi, Joanie, Joanie, car tous les enfants dans leur drap dorment d'un sommeil innocent. Enfant, la nuit est un doux refuge de rêve. Des fils de soie reposent sur les cils de l'enfant innocent. Enfant, que le blanc linge te protège, toi aussi, Joanie. Petits et grands, les enfants sont dorés d'argent, faufilés de fil blanc. Grands et petits, les enfants aiment la vanille. Dans le train de spéculose, dans le train de massepain, dans le train de l'enfant, sur le dernier wagon, un coffre fort avec la gomme des parents dedans. Dans, 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 dans. Le ciel est plein de nuages et de paysages. Nuages coton, bleu, blanc, blanc au-dessus du village. Le vent descend dans la rue, prend le chapeau du passant. Et que l'enfant prend, lance dans le vent. Chapeau du passant dans les nuages de l'enfant au-dessus du village. Le ciel des grands est beaucoup plus petit que le ciel des enfants. Enfants, ne deviens jamais grand.
Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît. Ne laisse pas que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau. Que sa pipe et puis son vieux chapeau.
Musique. les rues, ils dansent dans les villes avec des cris aigus et des rires d'oiseaux. Ils mordent dans les fruits avec des dents fragiles. Ils rêvent dans la nuit de fleurs et de chevaux. Les enfants, ils ont les genoux tendres aux pierres des chemins et des petites mailles, des lèvres si douces et des paupières bleues. Ils ont de gros chagrins quand tout ne va pas bien, que la vie n'est pas douce, les enfants. Ils grandissent un jour, ils bâtissent des villes, ils se disent monsieur, ils ont l'air importants, mais ils meurent d'amour et quand les mandolines leur déchirent le cœur, ils pleurent comme autant des enfants, des enfants. Ils apprennent l'argent, ils partent pour la guerre, ils s'en vont dans le ciel, ils inventent demain, mais comme les enfants, c'est pour une bergère qu'ils commencent un matin à bâtir leur maison, les enfants, les enfants. Ils marchent dans la vie, ils ont des joies, des peines qu'ils partagent à deux pour mieux passer le temps. Ils ont la même voix pour se dire je t'aime, ils ont le même sang quand ils ont un enfant, les enfants, les enfants. Prennent le chemin que prennent tous les grands, loin des jardins en fleurs, des herbes et des bêtes. Ils s'en vont pour l'hiver, ils quittent le printemps, mais quand ils sont dans l'ombre, ils voient dans la lumière leurs enfants.
La 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 la
Dépêche-toi, petit frère, dépêche-toi, petite sœur, pour faire le tour de la terre, nous partons tout à l'heure. Dépêche-toi, bonhomme, rien ne sera pareil, tout le bonheur du monde, aujourd'hui c'est Noël. Loin de la cour de l'école, au pays du merveilleux, nous danserons la farandole, la mèche folle, le cœur joyeux. Nous danserons la farandole, la mèche folle, le cœur joyeux. Dépêche-toi, petit frère, dépêche-toi, petite sœur, pour faire le tour de la terre, nous partons tout à l'heure. Dépêche-toi, bonhomme, rien ne sera pareil, tout le bonheur du monde, aujourd'hui c'est Noël. N'écoute pas, petit frère, lorsqu'un grand te soufflera, ne rêve pas la vie entière, le Père Noël n'existe pas. Ne rêve pas la vie entière, le Père Noël n'existe pas. Dépêche-toi, petit frère, dépêche-toi, petite sœur, pour faire le tour de la terre, nous partons tout à l'heure. Dépêche-toi, bonhomme, rien ne sera pareil, tout le bonheur du monde, aujourd'hui c'est Noël. Ferme bien fort tes paupières, sur le royaume des grands, tu rêveras la vie entière si tu le gardes ton cœur d'enfant. Tu rêveras la vie entière si tu le gardes ton cœur d'enfant.
Une chanson pomme pour un petit homme qui fera dodo dans son lit tantôt. Une chanson poire, c'est pour la nuit noire. Un refrain gris-bleu, c'est pour quand il pleut. Une chanson prune, c'est au clair de lune. Un arbre tout noir, muet dans le soir. Une chanson pêche, le chat se dépêche, le refrain sourit, ne fait pas de bruit. Chanson de l'orange, pour un petit ange, endormi au loin dans le champ de foin. Les hiboux se taisent, c'est la chanson fraise, le goût en est doux, j'en voudrais beaucoup. Bleuets et groseilles font dans mon oreille un petit bruit fin, noisette et raisin. La chanson framboise, le loup s'apprivoise dans le refrain vert d'un sapin d'hiver. C'est la chanson pomme pour un petit homme.